VOA Afrique, les infos, à Washington.
Avec vous Henri Francisque, midi à Abidjan, 13h à Yaoundé, bienvenue à notre journal. Violence au Niger, deux officiers de l'armée nigérienne, dont le commandant de la base de Dioko, une des plus importantes du pays, ont été tués dans un affrontement avec des trafiquants de drogue dans le nord du pays. C'est ce qu'a déclaré à l'AFP sous couvert d'anonymat ce mercredi un élu local basé à Agadez. Il y a eu aussi de nombreux blessés lorsque leur convoi est tombé lundi dans une embuscade tendue par des trafiquants de drogue lourdement armés, a ajouté l'élu en question en précisant que les deux militaires tués sont le commandant du bataillon de Dioko, Lamine Mahamat, et son chauffeur. La base de Dioko abrite des drones américains dans le cadre de la lutte contre les groupes djihadistes au Sahel. Le convoi de ravitaillement avait quitté Agadez pour se rendre à Dioko lorsqu'il a essuyé des tirs nourris d'hommes armés transportant de la drogue à bord de plusieurs véhicules. Les militaires nigériens ont pu récupérer deux véhicules appartenant aux trafiquants, mais ces derniers ont réussi à s'évanouir dans le désert. Selon la télévision d'État nigérienne, le président Mahamadou Issoufou a convoqué mardi une réunion du Conseil national de sécurité après l'attaque. Élection au Nigeria voisin, le principal parti d'opposition nigérian s'est réuni à Abuja, la capitale, pour dénoncer les propos du président sortant Muhammadu Buhari, qui a dit en début de semaine avoir ordonné aux forces de sécurité d'agir sans pitié contre les semeurs de troubles pendant les élections générales de samedi prochain. D'Abuja, notre correspondant Gilbert Tamba fait le point.
La sortie du président nigérian Muhammadu Buhari au cours de la réunion de son parti a dominé les débats de la réunion d'urgence du principal parti d'opposition, le PDP. Le président du Parti démocratique du peuple, Uche Segondos, n'a pas caché sa colère suite à cette déclaration.
Vous ne demandez pas que ces gens soient arrêtés et traduits devant la justice, mais vous aviez donné l'ordre de les tuer. Monsieur le président, vous n'avez pas raison. Si les membres de votre parti ne peuvent pas vous le dire, nous allons vous le dire. Et c'est pour cela que nous sommes dans l'opposition. Nous vous demandons de revenir sur cette déclaration et ses instructions.
Même réaction de déception au sein des populations et de la société civile du pays. Pour Diok Emmanuel du CODE, une ONG locale, il y a une loi qui prévoit une punition pour des actes de violence durant la période électorale.
La loi électorale stipule clairement la punition pour les gens qui attaquent des bureaux de vote. Donc, si vous emportez un bureau de vote le jour de vote, vous devez être arrêté et jugé. Si vous êtes coupable, vous serez condamné à 24 mois de prison. Mais pour un président de faire de telles déclarations qui ont tendance à provoquer des violences et qui demandent à l'armée de tirer sur les gens, c'est décevant.
La loi électorale interdit également la présence des éléments de l'armée nationale dans les bureaux de vote. Awal Moussa Rafsanjani du CISLAC, une organisation de la société civile, s'inquiète et pense que la déclaration du président pourrait avoir un impact négatif sur la participation des électeurs aux élections de ce samedi.
Il y aura une tension et cela pourrait décourager certains à sortir pour aller voter de peur d'être tués. Déjà, l'armée a publié un communiqué dans lequel elle affirme qu'elle va obéir aux instructions du président. Donc cela veut dire que beaucoup d'électeurs auront peur de sortir.
Les Nigériens sont appelés aux urnes ce 23 février pour des élections présidentielles et législatives initialement prévues pour le week-end dernier, mais reportées à la dernière minute par la CENI pour des raisons logistiques. La Commission électorale nationale indépendante a finalement cédé à la pression des partis politiques, levant l'interdiction de faire campagne avant le scrutin du samedi, comme le prévoit la loi électorale du pays. Gilbert Tamba, Abuja, VOA Afrique.
Côte d'Ivoire, le dirigeant du premier syndicat des professeurs d'université publique du pays, Johnson Zamina Kwasi, a été inculpé et écroué mardi à Abidjan. Les détails avec Morgane Guiriek.
Le secrétaire général de la Coordination nationale des enseignants-chercheurs a été écroué à la préfecture de police où il a passé la nuit. D'après Théodore Nyanyazadi, président de la plateforme qui regroupe une cinquantaine de syndicats de fonctionnaires, un autre camarade a aussi été déféré au parquet d'Abidjan dans l'attente d'être présenté à un juge. Monsieur Zadi, qui dénonce une violation des libertés syndicales, estime que cette arrestation abusive suspend une trêve sociale signée en août 2017 entre le gouvernement et les syndicats. La grève des professeurs de l'université Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan est rentrée lundi dans sa cinquième semaine. Outre l'arrestation de deux enseignants, le conseil de discipline de l'université a exclu quatre enseignants, dont le responsable de la CENEC pour des violences. Sept autres professeurs ont été suspendus de toute activité académique pour 6 à 12 mois. Monsieur Kouassi avait déjà averti lundi qu'une telle mesure allait exacerber la grève et durcir leur mouvement.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
Corruption et politique en RDC, après la présidentielle et les législatives du 30 décembre, l'occasion sera donnée aux nouvelles autorités congolaises de prouver leur engagement à lutter contre ce fléau avec la désignation le mois prochain de 108 sénateurs et des gouverneurs dans 24 des 26 provinces du pays. Ces élections ont lieu au scrutin direct et les grands électeurs ont souvent tendance à monnayer leur voix en dollars. La République démocratique du Congo est l'un des dix pays les plus corrompus au monde, selon l'indice de perception de l'ONG Transparency International. Et dans son discours d'investiture le 24 janvier, le nouveau président congolais Félix Tshisekedi a qualifié la corruption de fléau qui dévaste le pays et ses institutions. Le chef de l'État a promis une stratégie de lutte anticorruption dans l'ensemble des rouages de l'administration publique. République démocratique du Congo toujours, l'épidémie de fièvre Ebola qui a tué 528 personnes dans l'est du pays est actuellement maîtrisée dans l'un de ses foyers, la zone de Beni. C'est ce qu'a annoncé le ministère de la Santé. Il s'agit de l'une des premières notes d'optimisme depuis le début de l'épidémie le 1er août dernier. Beni a été l'un des principaux épicentres de l'épidémie de cette fièvre hémorragique avec 118 décès de cas confirmés. Au Cameroun, des militaires de Bamenda dans la région anglophone du Nord-Ouest se sont assignés une nouvelle mission, ramasser les ordures. Des séparatistes présumés ont détruit le matériel de la société qui est normalement chargé de cette tâche. John Lyndon.
Isacam, l'entreprise spécialisée dans la collecte des ordures ménagères, a suspendu ses activités à Bamenda le 1er février. L'arrêt de ces travaux intervient à la suite de la destruction de camions bennes et d'autres installations par les hommes armés séparatistes anglophones présumés. Depuis, les ordures s'accumulent dans la ville. Des habitants excédés les brûlent, ce qui provoque des incendies et fumées toxiques. Des soldats et sapeurs-pompiers ont été déployés dans les quartiers de Bamenda pour remplacer les éboueurs. Nous ne pouvions pas continuer de voir les populations souffrir de la situation, a déclaré le général Robinson Naga, commandant de la 5e région militaire basée à Bamenda. Depuis fin 2017, les régions anglophones du Nord-Ouest et du Sud-Ouest sont le théâtre d'un conflit armé. Selon International Crisis Group, plus de 200 soldats et au moins 500 civils ont été tués.
Actualité hors d'Afrique maintenant, conflit en Syrie, des dizaines de civils, mais aussi des combattants du groupe État islamique se sont rendus aux forces arabo-kurdes mardi dans l'est du pays. Et leur évacuation a commencé. Plus de détails avec Claire Morin-Gibourg.
Cela fait plusieurs jours que plus personne n'était sorti de la petite poche encore sous contrôle du groupe État islamique du village de Bakrouz, petit hameau de la province de Deir ez-Zor, près de la frontière irakienne. Les FDS, les forces démocratiques syriennes, avaient d'ailleurs ralenti leurs opérations, disant craindre que des civils soient utilisés comme boucliers humains. Daesh est désormais acculé dans un minuscule réduit qui a été visé hier par 3 frappes aériennes et des bombardements à l'artillerie. Pour la première fois en 4 jours, des dizaines de civils et quelques combattants se sont alors rendus au FDS, dont des étrangers. L'ONU s'est dit préoccupée pour quelques 200 familles, dont des femmes et des enfants, qui seraient prises au piège des combats. Selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme, près de 40 000 personnes, principalement des familles de djihadistes, ont fui le secteur depuis début décembre.
Et pour terminer, la première ministre britannique Theresa May remet le cap sur Bruxelles aujourd'hui en quête de modification de l'accord de Brexit, la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne, un accord déjà conclu avec l'Union européenne. On s'attend à ce que la leader britannique se heurte de nouveau à des Européens inflexibles. Merci de votre attention. Plus d'infos sur notre site internet voaafrique.com. Vous pouvez également nous joindre sur notre page Facebook.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.